Bonjour à tous, ceux que j'ai pas salués encore. Je suis très contente d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucille Anger et je viens de l'église de Colmar-Ingersheim. Tu es le Dieu qui me voit. C'est le thème de base de ma prédication. Est-ce que vous savez d'où est tirée cette parole et qui l'a dit? Donc c'est Agar, la servante de Sarai, la femme d'Abraham. J'ai lu un jour cette phrase qui est écrite dans un calendrier de lecture biblique et je me suis demandé d'où venait cette phrase et qu'est-ce qui expliquait qu'on soit arrivé à cette conclusion-là. Et donc je suis allée relire le récit dans lequel elle se trouve et j'ai été très surprise par le chemin qui a conduit Agar à faire cette déclaration. Et c'est à ce chemin que je me suis intéressée. Donc je vais commencer par lire le texte dans Genèse 16, versets 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. » Peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar, et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard, comme il te plaira. » Alors Sarai se mit à l'affliger, et Agar s'enfuit pour l'échapper. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. » Le messager du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. » Le messager du Seigneur lui dit, « Je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter, tant elle sera nombreuse. » Le messager du Seigneur lui dit, « Te voici enceinte. Tu vas mettre au monde un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël, Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé, « Tu es Elroï, le Dieu qui me voit. » Car, dit-elle, ai-je vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits, puits la Haïroï, au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Bérel. Agar donna un fils à Abraham. Abraham appela du nom d'Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham. Alors un petit point de contexte, à l'arrière-plan de ce passage, il y a la promesse de Dieu à Abraham. Après qu'Abraham a dit qu'il n'avait pas de descendance et que son héritier était Éliézer, Dieu a répondu, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Contemple le ciel et les étoiles si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Genèse 15. Je m'attarderai principalement, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, sur les versets 7 à 16, mais comme ces versets découlent des versets précédents, je fais un petit point de la situation. Sarah y accuse Dieu de l'avoir rendue stérile, et elle décide d'avoir un enfant par l'intermédiaire de sa servante. Sa servante Agar. Alors cette pratique qui nous semble choquante est une coutume répandue dans le Proche-Orient ancien. Une femme avait l'obligation de donner une postérité à son mari, et si elle ne le pouvait pas, elle devait le faire par l'intermédiaire d'une servante qui jouait en quelque sorte le rôle de ce qu'on appellerait aujourd'hui une mère porteuse. Ça ne signifie pas évidemment que Sarah a eu raison de le faire. Toujours est-il qu'elle veut un enfant par l'intermédiaire de sa servante, et Abraham l'écoute. Le texte ne précise pas ce qui le pousse à accepter alors qu'il connaît la promesse de Dieu que j'ai rappelée tout à l'heure. En tout cas, on ne demande pas l'avis d'Agar. Sarah la prend, la donne à Abraham comme on donnerait un objet. Agar n'est qu'un moyen utilisé par Sarah pour satisfaire son désir d'enfant. Et à partir de là, les choses s'enveniment. Agar prend sa maîtresse de haut, Sarai accuse Abraham de cette situation, après en avoir voulu à Dieu, c'est à Abraham qu'elle en a. Et pourtant, elle reconnaît que c'est elle qui a donné Agar à Abraham. Elle veut sans doute dire que si Agar est enceinte, c'est grâce à elle, et donc qu'Agar devrait lui être reconnaissante. Mais Agar n'a rien demandé. On voit ici que cette pratique, toute légitime qu'elle est pour l'époque, ne favorise pas la paix des ménages. Et cette fois, Sarai, qui a décidé seule de recourir à sa servante, en appelle à Dieu. Et que fait Abraham? Il donne tout pouvoir à Sarai sur sa servante. Certes, il redonne à Sarai sa place de maîtresse, mais il ne résout pas du tout la violence dans les relations. C'est donc un vrai sac de nœuds relationnel entre Sarai et Abraham, avec Agar et dans la relation avec Dieu. La seule issue que trouve Agar au milieu de tout ça, c'est de fuir, puisqu'elle est le jouet de ses maîtres, qui se la renvoie comme une balle. Elle ne compte pour rien. Voilà un petit point de la situation. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de l'histoire. Parce que c'est cette partie qui se termine par l'exclamation d'Agar: tu es le Dieu qui me voit. On comprend ici que le messager du Seigneur dont il est question avant n'est autre que Dieu lui-même. C'est une expression qui est souvent utilisée pour indiquer de manière indirecte l'intervention de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle pour qu'Agar en arrive à cette conclusion? Bon, vous allez me dire, c'est parce qu'elle a rencontré Dieu. Oui, mais qu'est-ce que cette rencontre lui a apporté? Qu'est-ce que cette rencontre a changé? Avez-vous remarqué comment commence cette rencontre? Dieu aborde Agar avec une question. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est quand même surprenant. D'ordinaire, nous attendons de Dieu qu'il nous révèle des choses ou qu'il réponde à nos questions. Et bien sûr, c'est aussi le cas, il y en a de nombreux exemples dans la Bible. Mais ici, c'est Dieu qui pose une question. Et quelle question? Comme s'il ne connaissait pas la réponse. En fait, s'il la pose, c'est pour que Agar elle-même se pose cette question. Et elle répond: je me suis enfuie de chez Sarai, ma maîtresse. Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans cette réponse? Dieu a posé deux questions: d'où viens-tu et où vas-tu? Et Agar ne répond qu'à la première. D'où viens-tu? Elle ne répond pas à où vas-tu. Si elle ne répond pas à cette deuxième question, c'est parce qu'elle n'a pas de réponse. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle n'a pas d'objectif. Donc, à travers cette question, Dieu l'amène à prendre du recul par rapport à ce qu'elle est en train de faire et à l'impasse dans laquelle elle se trouve. Elle est en plein désert, elle va nulle part, et Dieu l'aide à se situer. Il y a d'autres passages dans la Bible où on voit Dieu s'adresser aux hommes en leur posant une question. Et c'est justement quand ils sont dans une impasse. Par exemple, après qu'Adam et Ève ont mangé du fruit défendu dans le jardin d'Éden et se sont cachés, il est dit en Genèse 3, Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Ou encore, lorsqu'Élie découragé s'est réfugié dans une grotte à Horeb, en 1 Roi 19, la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Et à chaque fois, Dieu connaissait la réponse. Mais le fait de poser une question aide à se sortir de son impasse, à prendre le problème par le bon bout, à regarder ailleurs et à regarder autrement. Et je me demande si on a conscience que Dieu peut nous poser de temps à autre des questions et si on sait y être attentif. Après cette réponse d'Agar, Dieu va faire trois déclarations. Tout d'abord, il répond à la question « Où vas-tu ?» laissée sans réponse par Agar, mais en donnant un ordre aussi rude qu'inattendu, Dieu lui dit « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. » Là, j'ai lu la version NLS, Nouvelle Bible Seconde, et la Tobe traduit « Retourne chez ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » Comment est-ce que Dieu peut dire ça ? Renvoyer Agar là où elle est maltraitée au point qu'elle a dû fuir et lui demander de laisser Sarai faire. Bon, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que l'histoire d'Agar appartient à un contexte spécifique sur lequel je reviendrai et n'est pas généralisable évidemment à toutes les situations de maltraitance dans lesquelles partir est parfois la seule solution salutaire. La veuve d'Agar, répondant qu'elle s'est enfuie de chez sa maîtresse, met en évidence l'anomalie de la situation. Quel avenir a-t-elle, seule, enceinte, dans le désert ? Sa place est auprès de sa maîtresse. D'ailleurs, en s'adressant à elle au tout début, Dieu l'a appelée Agar, servante de Sarai. Oui, mais alors, c'est un retour à la case départ ? Pas exactement. Dieu ne cherche pas à punir Agar. Et d'ailleurs, il ne lui fait aucun reproche pour sa conduite. Son but n'est pas non plus de maintenir le statu quo comme s'il lui demandait d'en prendre son parti. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, il faut l'accepter. Non, il y a une autre raison. Une fois posé le préalable du retour chez sa maîtresse, Dieu a sorti son ordre d'une promesse. Je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. Il ne dit pas « tu auras une nombreuse descendance », mais « je multiplierai ». Après avoir dit à Agar ce qu'elle avait à faire, Dieu s'engage. « Toi, tu retournes et moi, je multiplierai ». Il va prendre son sort en charge et même en faisant fructifier à l'infini le fruit de ses entrailles. Dieu a dit « Je multiplierai », mais il a aussi dit « Ta descendance » et non pas la descendance de Sarai dont tu portes l'enfant par procuration. Parce que je rappelle que Sarai disait « J'aurai un fils par elle ». Autrement dit, Agar n'est plus considérée comme un objet, comme un moyen de résoudre le problème de quelqu'un d'autre, mais elle est considérée comme une personne. Sarai, en parlant d'elle, disait « ma servante », par exemple « va avec ma servante, c'est moi qui ai placé ma servante sur ton sein ». Et Agar se réduisait à une fonction, elle était la propriété d'une autre. Dieu, au contraire, en s'adressant à Agar, a commencé par l'appeler par son nom, Agar. Dieu ne l'instrumentalise pas. Il est venu à sa rencontre et s'adresse à elle personnellement. Et à la fin du récit, elle n'est plus nommée que par Agar. Il n'est plus du tout question de la servante de Sarai. Et c'est Abraham qui donnera son nom au fils d'Agar. Non seulement il le reconnaît comme son fils, mais c'est le nom que Dieu a demandé à Agar de donner, ce qui veut dire qu'il suit ce que Agar a transmis. Et à la fin du texte, il n'est même plus question du tout de Sarai, mais seulement d'Agar, d'Abraham et de leur fils à eux deux. je relis les versets 15 et 16. Agar donna un fils à Abraham. Abraham appela du nom d'Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham. Non seulement Dieu a fait une promesse à Agar sur le long terme, mais en même temps, il l'a restaurée dans son humanité. Il l'a reconnue en tant que mère à part entière, porteuse non pas de l'enfant de Sarai, mais d'une promesse incroyable de Dieu. À partir de la question « Où vas-tu ?», Dieu a réorienté Agar. Sa vie a pris un autre sens, elle a pris du sens, elle ne retournera pas chez sa maîtresse comme elle en était partie. Mais cette déclaration de Dieu à Agar, je la trouve étonnante pour une autre raison encore. C'est exactement la promesse que Dieu a faite à Abraham au moment de sa séparation avec Lot. En Genèse 13, il est dit « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. » Ça signifie, puisque c'est exactement la même promesse, que Dieu, fidèle à la promesse qu'il a faite à Abraham, y inclut Agar. Et le retour d'Agar chez Abraham, qui reconnaît Israël comme son fils, le rend manifeste. Pourtant, la situation d'Agar n'est de toute évidence pas le plan de Dieu au départ. Mais cette promesse montre que Dieu compose avec les erreurs des hommes, avec nos erreurs. Il reste fidèle à la promesse qu'il a faite. Et il prend en compte les situations impossibles dans lesquelles les hommes se sont fourrés et il en fait quelque chose. Ce sera aussi le cas, par exemple, avec Joseph, qui a été vendu par ses frères à des marchands qui l'emmènent en Égypte, ce qui le conduira auprès de Pharaon et lui permettra plus tard de sauver sa famille. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière dans l'histoire. Avec la dernière déclaration de Dieu, qui, après avoir évoqué à Agar la promesse lointaine de la descendance, revient à un avenir proche. En évoquant le fils à naître, en disant à Agar qu'elle va avoir un fils, il valide en quelque sorte l'incroyable promesse qu'il vient de faire, car sa naissance permettra à Agar de constater qu'elle n'a pas rêvé, que cet entretien a bien eu lieu, que Dieu disait vrai. Et surtout, le prénom choisi par Dieu a son importance. Ismaël, Dieu entend, qu'on peut aussi traduire par Dieu entendra. Dieu lui-même l'explique en disant « Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction » au verset 11. Mais il y a plus. Ce prénom accompagnera l'enfant toute sa vie et sa signification jalonnera la suite de la vie d'Agar et Ismaël. Car même si tout ce que Dieu vient de dire est prometteur, leur vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Le mauvais départ laisse des traces. On ne sait pas grand-chose des années qui ont suivi le retour d'Agar chez Abraham et Sarai, mais lorsqu'Ismaël aura 14 ans, Agar et son fils seront finalement chassés par Abraham à la demande de Sarah. Et alors qu'Agar, de retour dans le désert, désespéré, croit que son enfant va mourir, il est dit « Dieu entendit le garçon ». Appela Agar et lui dit « Dieu a entendu le garçon là où il est ». Et de même, Dieu avait dit auparavant à Abraham en Genèse 17 « De même pour Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le multiplierai à l'extrême ». Autrement dit, le nom d'Ismaël scelle la promesse de Dieu que, quoi qu'il arrive, il entend. Le nom Ismaël est une promesse en soi qu'Agar va emporter avec elle. Et c'est après cette rencontre qu'Agar déclare « Tu es le Dieu qui me voit ». Dieu vient de lui dire qu'il l'a entendu, et Dieu l'appelle, et Agar, l'appelle « Dieu qui me voit ». C'est un peu étonnant. Comment le comprendre ? Juste avant qu'Agar donne un nom à Dieu, il est écrit, elle appela le Seigneur qui lui avait parlé, Dieu qui me voit. Si donc elle en déduit que Dieu la voit, c'est parce qu'il lui a parlé. Donc un dialogue s'est instauré entre un tu et un je. Que le Seigneur lui ait entendu, lui ait parlé comme à une personne, la rétablissant dans sa dignité de personne, en l'assurant de sa présence, en lui assurant un avenir, signifie qu'elle a rencontré quelqu'un qui la voit. Alors qu'avant, ballottée entre Sarai et Abraham, elle était comme invisible. Enfin quelqu'un qui la voit, elle, Agar. Elle compte aux yeux de Dieu. Dieu est allé à sa rencontre, lui a parlé, et cela va lui permettre de retourner là où les relations étaient dans une impasse. La situation n'a pas fondamentalement changé, mais Agar a changé, et son regard sur la situation a changé. J'en arrive à ma dernière partie, j'ai intitulé « Tout un programme ». Bien sûr, cette rencontre entre Dieu et Agar nous parle en elle-même. Quand nous sommes dans une impasse personnelle ou relationnelle, Dieu vient à notre rencontre. Il parle, il agit avec ce que nous sommes, avec nos errements. Il travaille avec nos sacs de nœuds. Il nous restaure dans notre humanité. Il nous inscrit dans le projet qu'il a pour nous. Il donne un avenir, une espérance. Lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu a en vue pour nous, nous découvrons combien nous comptons à ses yeux. Cela nous construit et cela nous met en marche. Quitte à ce que cela passe d'abord par une question ou une remise en question qui peut déstabiliser. Mais ça déplace le regard, ça réoriente. Parfois, sans que notre situation change, mais en nous changeant, et en changeant le regard que nous portons sur la situation. Et cela ne signifie pas que tout sera rose. Mais Dieu est fidèle à sa promesse, et nous a donné l'assurance que quoi qu'il arrive, il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cet épisode qui a l'air secondaire dans la grande histoire de Dieu avec Abraham est en fait riche de sens plus largement. Il préfigure ce que Dieu va accomplir en Jésus-Christ. Dieu s'est engagé vis-à-vis de Agar et il s'est engagé en venant lui-même sur terre parmi les hommes. Et Jésus, durant sa vie, n'a cessé d'aller à la rencontre des plus petits, des opprimés, des rejetés, des invisibilisés, pour les relever, les restaurer, les remettre en marche, les intégrer dans le peuple de Dieu. De plus, Agar a une place à part. C'est la seule personne de l'Ancien Testament dont il est dit explicitement qu'elle a nommé Dieu. Or, cette seule personne, c'est premièrement une étrangère, puisqu'elle est égyptienne. Deuxièmement, c'est une servante. Et troisièmement, c'est une femme. À qui Dieu, comme on l'a vu, adresse la même promesse qu'à Abraham. Or, en Jésus-Christ, comme le dit Galates 3, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Dieu a inclus Agar dans une promesse qui va au-delà de ce qu'elle pouvait concevoir. Et c'est vrai aussi pour nous, qui avons tendance à voir Dieu à l'intérieur de nos limites, et à ne pas voir que nous enfermons aussi les autres dans des limites qui ne sont pas celles de Dieu. Dieu, dans son amour, nous voit au-delà de ce que nous sommes et nous y entraîne. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés, à la suite de Jésus, à incarner ce Dieu qui voit, à aller nous aussi à la rencontre des plus petits, des opprimés, des invisibles, pour leur permettre de rencontrer ce Dieu-là qui nous voit, qui les voit. Amen.